I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par Unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission.
Et nous, on va commencer par l'actualité. Victor, l'actualité la plus chaude, on va dire, je l'ai un petit peu évoqué, c'est le report de ce match entre les Bills et les Steelers. C'était un match qui devait commencer à 19h, heure française, aujourd'hui. Finalement, c'est un match qui se jouera demain, lundi, donc à 22h30, heure française. Il y a beaucoup, beaucoup de neige dans l'État de New York. Vous avez peut-être vu les photos au niveau des réseaux sociaux de Twitter et peut-être même d'Instagram. Il y a beaucoup de neige, ce qui rendait la pratique du football compliquée. Puis surtout, la sécurité pour les spectateurs quasiment impossible à assurer. Ils ont donc décalé le match. Victor, c'est une décision logique quand on voit les images qui nous viennent de l'État de New York.
Oui. Bah, c'est vrai que c'est malheureusement un week-end un peu caricatural parce que bon, il y a 3 matchs sur 6 en dôme et les 3 matchs qui sont pas en dôme. Il y en a un hier qui s'est joué sous moins 20 degrés. Il y a ce match-là sous la neige et le troisième qui potentiellement va être décalé à cause des orages. Donc, c'est vrai que c'est un week-end un peu compliqué. Pour le Bills Steelers, on a vu des images qui étaient impressionnantes. Je pense qu'en termes de sécurité, c'était ridicule de faire venir des dizaines de milliers de personnes dans ces conditions-là. Ça aurait juste mis des milliers de voitures dans le fossé et potentiellement des accidents graves. Donc à un moment, c'est juste la logique. Par contre, ça a un impact sportif terrible parce que quel que soit le vainqueur de ce match, d'ailleurs, il aura eu deux jours de repos en moins par rapport à son adversaire. Puisque hier, c'était les 2 matchs AFC et que les 3 autres matchs qui restent à passer, c'est la NFC. Mais du coup, c'est quand même un désavantage sportif majeur pour ces équipes. Alors peut-être un peu moins pour les Bills qui resteront à la maison si jamais ils gagnent. Mais malgré tout, ça reste quand même, on le voit avec les Thursday Night Football, à quel point les équipes sont cramées. Ça peut avoir un impact sportif énorme.
Oui, ça peut en avoir un impact sportif. On espère qu'il va se jouer demain aussi, hein, parce que si c'était très compliqué aujourd'hui, ça peut l'être tout autant demain. On espère que ce sera réglé ou du moins praticable demain. En tout cas, ça peut aussi niveler un petit peu ce match de demain. On en parlera plus tard certainement, mais en tout cas, on sait que les conditions comme ça, climatiques, ça a tendance à niveler, à rendre le match un peu compliqué. Certes, les Bills et les Steelers sont habitués de jouer dans des conditions un peu, notamment dans le froid, à l'inverse peut-être des Dolphins, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que ça peut rendre les attaques un peu plus compliquées. On en a vu notamment dans plusieurs saisons en NFL. Donc, on verra tout ça dès demain. On l'espère, en tout cas, on croise les doigts. C'est vrai que ça nous empêche de voir un match de play-off à 19h un dimanche. c'est un petit peu préjudiciable pour nous, Français. Mais c'est vrai que quitte à avoir un match, autant voir un match qui peut y avoir du public et qui peut être sympa à voir plutôt qu'un match, certes à 19h, mais qui aurait été très compliqué. L'autre, actu chaude, l'autre match de demain, Victor, c'est le Buccaneers Philadelphie, les Eagles qui se déplacent en Floride. Tu l'as dit, un match aussi qui pourrait être gêné à cause de la pluie et de l'orage qui s'annonce en Floride. Mais surtout, on a appris l'absence de AJ Brown il y a quelques heures, quelques jours, le receveur qui ne pourra pas jouer ce match-là. C'est un coup dur pour les Eagles.
Oui, d'une certaine manière, oui, bien sûr, quand tu perds un joueur majeur, c'est forcément un coup dur. Après, je n'ai pas l'impression que ça change drastiquement ce match. Je m'explique, c'est que les Eagles sont en perdition depuis un mois dans tous les secteurs de jeu. Hein. On a un groupe qui a absolument explosé. Quand on regarde sur le papier deux effectifs, avec ou sans AJ Brown, si les Eagles se réveillent, retrouvent un état d'esprit, etc., ils doivent passer. S'ils continuent comme ce dernier mois, globalement, ils vont se faire éliminer. Donc, c'est vrai que perdre un atout, c'est embêtant, mais malgré tout, quand tu as Dallas Goedert, DeAndre Swift, Devonta Smith, voire même des Quez Watkins, etc., tu dois pouvoir t'en sortir, notamment contre une équipe qui a un peu de problème sur le jeu à passe profond, et Watkins, pour le coup, qui va numériquement remplacer AJ Brown, est plutôt un tout droit, comme on aime à dire, un joueur nord-sud, si on est poli, un tout droit si on est un peu moins. Mais c'est vrai que, ça, oui, c'est impactant, il y a des blessés des deux côtés, Baker Mayfield et questionable. Bon, normalement, il va jouer, mais dans quel état, on verra bien. Jalen Hurts s'est disloqué le doigt, donc globalement, c'est vraiment un affrontement entre deux équipes en difficulté. Mais voilà, c'est une grosse absence. Malgré tout, je ne suis pas sûr que ça change vraiment la problématique de ce match.
Oui, on verra. Et tu l'as annoncé aussi, Baker Mayfield, c'était aussi l'information. Il est incertain, blessé aux côtes et à la cheville. Il devrait pouvoir tenir sa place, mais c'est quelque chose à surveiller ce soir et notamment demain. En tout cas, dans le chat, on est d'accord pour dire que l'absence de ce match à 19h, c'est dommage pour nous les Français. Puis on parlait des repos. Il y a Guigui Twig qui dit « Tampa et Philadelphia, idem pour l'impact du repos ». La différence, c'est que les matchs NFC se jouent aujourd'hui. Donc il y aura
un jour, pas deux jours.
Un jour de moins et c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que pour l'AFC, ce sera deux jours. Victor, la grosse information de cette semaine, c'est aussi l'absence, en tout cas le licenciement, le limogeage, on l'a remercié plus que licencié de Bill Belichick à New England. Les Patriots et Bill Belichick qui ont décidé de mutuellement, comme ils disent, de se séparer après 24 ans. On va parler des entraîneurs un petit peu plus tard dans ce fauteuil, mais on ne va pas parler des Patriots parce qu'eux, ils ont déjà trouvé un successeur. C'est allé très vite à New England. On n'a même pas eu le temps d'en parler dans les podcasts, mais on va l'aborder aujourd'hui. Et avant de parler de la suite, on va déjà parler de Bill Belichick, Victor. 9 Super Bowl coachés avec New England, 6 gagnés. C'était dans les tuyaux depuis un moment. On en parlait en saison régulière. C'était peut-être un coup oui, un coup non. On parlait de ce match après le déplacement en Allemagne, comme quoi Robert Kraft avait pris la décision. Finalement, on n'a jamais trop su le fin mot de l'histoire jusqu'à cette semaine-là. Est-ce que tu es surpris déjà, avant tout, de ce départ ?
Surpris, non, parce que c'était quand même dans les tuyaux toute la saison. On a commencé à le voir. Ça a l'air d'un commun accord, mais il y en a un qui était plus d'accord que l'autre quand même. Après, ça reste un choc parce que, tu vois, moi qui ai commencé à suivre la NFL début des années 2000, bah, globalement, la NFL sans Bill Belichick, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Tu vois. Donc forcément, c'est très impactant quand tu perds une figure majeure de ce sport. Je veux dire, les Patriots, c'était Brady et Belichick. Ensuite, les Patriots, ça a été Belichick. Il restait au moins un des deux piliers, tu vois. Là, on perd le pilier majeur. On rappelle que les Patriots, avant Brady et Belichick, hein, pardon pour les supporters des Patriots, et je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est une franchise qui a presque aucune importance dans l'histoire de la NFL. C'est deux Super Bowls perdus. C'est plutôt une réputation de loser. Et finalement... De cette équipe qui n'avait pas forcément marqué l'histoire, etc., est née la plus grande dynastie de l'histoire du football, voire même deux dynasties distinctes, si on veut être un peu technique. Mais ce que je veux dire, c'est quand même incroyable. Ils ont globalement gagné la division quasiment tous les ans dans la période Brady. Il y a l'année où Brady se blesse, et avec Matt Cassel, ils font 11 victoires et ils arrivent à pas être en playoff, je me souviens. Donc, ils ne la gagnent pas cette année-là. Mais mis à part ça, c'était une domination sans partage. Après, c'est vrai que ça fait plusieurs saisons que ça coince. Et pour moi, il y a un problème majeur qui a été le non-renouvellement du staff à toujours venir rechercher ses copains plutôt que de rechercher des idées neuves. Oui. Les Patricia, les Bob, etc. Enfin, Bill O'Brien. Je trouve qu'ils se sont enfermés un peu. Alors, peut-être que si la méthode Belichick, c'est quand même documenté que c'est pas un sympa et que c'est un peu violent et que c'est une méthode des années 2000, quoi. C'est plus tellement une méthode des années 2020 où on a tendance à cajoler les joueurs. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui voulait travailler avec lui non plus. Mais ouais, je pense que malheureusement, il a décidé de mourir avec son système plutôt que d'évoluer.
Alors déjà, tu as dit beaucoup de choses déjà dans cette première réponse. Mais déjà, tu dis on va voir la NFL sans Bill Belichick. C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que Bill Belichick, il pourrait…
Non, mais sans Belichick aux Patriots.
Voilà. C'est en effet sans Belichick aux Patriots. Parce que d'ailleurs, Bill Belichick, il avait une petite carrière avant les Patriots. Mais en effet, c'est surtout aux Patriots qu'on s'en souvient. Comme tu l'as dit, moi, je suis dans le même cas que toi. Je n'ai pas connu la NFL avant. En tout cas, je n'ai pas connu la NFL sans Bill Belichick aux Patriots. C'est vrai que c'était compliqué quand on a vu Tom Brady partir. Maintenant, Bill Belichick ne sera plus aux Patriots. Il sera peut-être autre part. Mais en effet, tu as commencé à l'évoquer. On sentait véritablement une vraie fin de cycle. Parce que Tom Brady est parti. On se disait peut-être que les deux allaient partir en même temps. Ça aurait été la beauté. Finalement, Bill Belichick est resté. Et la première année, on a envie de dire, on s'est dit pourquoi pas, ils ont quand même fait les playoffs avec un Cam Newton. Ils avaient une année où Mac Jones n'était pas trop mal. Et puis là, véritablement, ça fait au moins deux saisons qu'on voit qu'il y a une vraie fin de cycle pour toutes les raisons que tu as évoquées. Mais on sentait que ça devenait quasiment inéluctable. On n'a fait que le répéter dans le podcast depuis quasiment la mi-saison. On en parlait même en début de saison en se disant que ça pourrait être la dernière saison de Bill Belichick.
Et d'ailleurs, je me permets de flex, hein. Mais si vous regardez la pastille Patriots, où nous étions tous les deux et Grégory a ouvert de grands yeux quand nous avons annoncé l'un et l'autre, et Patriots a 5 victoires, je crois. Il nous avait dit 8 ou 9, lui de son côté.
Oui, on l'avait calmé en disant
ouais,
en disant
oula. Et finalement, on était presque optimistes hein, avec 5 victoires.
Oui, et je me rappelle exactement, puisque tu flexes, on va flexer, je me rappelle exactement que c'était le début de cette pastille-là en vous demandant, messieurs, est-ce que c'est la dernière année de Bill Belichick au Patriots? Il s'avère que ça l'était. En effet, il est parti. Est-ce que déjà la façon de partir, on en parlait un petit peu dans le chat, il y a des gens qui disent que ça a été fait assez convenablement. C'est documenté, il y a plusieurs articles qui relaient un petit peu les informations comme quoi Robert Kraft et Bill Belichick ne s'entendaient plus vraiment. Ça fait 24 ans qu'ils étaient ensemble, il faut le dire. C'est difficile de rester, d'avoir une amitié au beau fixe ou alors une relation de travail au beau fixe pendant 24 ans. Est-ce que tu estimes que ça s'est fait correctement malgré ce qu'il pourrait y avoir en coulisses?
Oui, en plus, connaissant les deux bonhommes, connaissant Kraft et Belichick, ça aurait pu être bien pire. Bon, alors c'est sûr que c'est pas, on y reviendra, un autre coach, celui des Steelers, où il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de machins. Là, c'était froid, c'était à la Belichick, quoi. 7 minutes. Je m'en vais, merci à tous, au revoir. Bon. Ouais, mais d'un autre côté, c'est son tempérament. On le sait, je veux dire, quand on lui demande ce qu'il ressent, il répond en 3 lignes. Quand tu lui demandes l'impact des gunners sur l'équipe spéciale, il répond en 25 minutes. Ça a toujours été Belichick, ça a toujours été comme ça, mais globalement, c'est bien terminé. Après, j'ai trouvé que là où c'était toujours un peu la personnalité de Kraft, mais encore une fois, je compare aux Seahawks ou à Alabama, où ils ont laissé tout le temps au coach pour que le coach soit au milieu de tout. Là, ils ont laissé parler Bilou, mais il fallait que Kraft il vienne se la ramener quand même, parce que bon, s'il n'est pas devant les caméras, il ne se sent pas très bien. Mais bon, oui, pardon.
Non, et en plus, c'est lui qui parle en dernier. C'est vrai que c'était un peu particulier. Après, ça voulait peut-être annoncer la suite, mais c'est vrai que c'est Bill Belichick qui a commencé. C'est ensuite Robert Kraft qui a parlé, notamment sur cette conférence de presse.
Normalement, c'est l'inverse.
Normalement, on aurait pu imaginer que ce soit l'inverse, oui.
Mais bon, après, globalement, je te dis, vu les personnages, oui, ça s'est terminé convenablement. Tout le monde fait en sorte de faire croire que c'est mutuel et puis c'est très bien.
Rapidement, Bill Belichick, est-ce que tu le vois quelque part d'autre en spoilant un petit peu? Non, on en parlera après. On va en parler après parce que je vais te faire, je vais te faire une double question. On va parler de la suite des Patriots d'abord parce que je l'ai dit, on va parler des coachs et des équipes qui sont à la recherche d'entraîneurs. Les Patriots, ils ont viré leur entraîneur, mais ils sont déjà plus à la recherche de leur entraîneur puisqu'ils ont officialisé l'arrivée de Gerard Mayo, l'ancien linebacker des Patriots, en tant que coach principal. Il était dans le staff depuis quelques années. Avant d'abord de parler de ce choix, est-ce que tu apprécies le fait que les Patriots aient un plan? On le voit, ils sont déjà les premiers, ils ne vont même pas devoir faire des interviews comme toutes les autres équipes peuvent le faire. Au moins au niveau de l'entraîneur principal.
Oui, y a une chose que je n'apprécie pas forcément, c'est de mettre en head coach un coach défensif, mais on en reparlera quand on fera la base des coachs, je développerai là-dessus. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont été corrects. C'est-à-dire que Mayo, ça fait quand même plusieurs années qu'il peut aller ailleurs pour des postes un peu prestigieux, qui reste par fidélité, parce que je pense qu'on lui avait dit qu'il succéderait. Il n'était même pas coordo défensif, je crois, en titre, puisque Belichick n'attribuait pas ce titre, hein, donc il devait être coach des linebackers ou autre. Voilà, je trouve que c'est bien d'avoir tenu parole, d'avoir été honnête. Et comme tu le dis, au moins, ils peuvent travailler dès maintenant sur ce qu'ils veulent améliorer. Ils seront en pole position pour chercher un coach offensif, parce que là, tout le monde est en train de faire des interviews pour trouver des head coachs. Mais du coup, en fait, le head coach, il va venir avec un coach offensif. Les coachs offensifs qui seront devenus head coach, bah, les franchises, on doit en trouver un nouveau. Mais eux, ils sont en avance sur tout ça. Et si jamais ils ont un coup de cœur, ils peuvent investir des millions sur un coordinateur dès maintenant sans lui laisser, entre guillemets, l'opportunité d'aller tester le marché. Donc oui, tant qu'à faire, c'est bien d'être en avance.
Oui, moi, en effet, je suis d'accord avec toi. C'est le fait d'avoir de l'avance, de pouvoir en effet commencer à penser à l'avenir déjà. Et comme tu l'as dit, c'est correct parce que dans le contrat de Gerard Mayo, on a appris qu'il y avait déjà certains termes qu'il annonçait comme le successeur de Bill Belichick, qu'en effet, il était annoncé comme le successeur déjà il y a plusieurs années. Et ils ont tenu parole les Patriots. Gerard Mayo est resté parce que, comme tu l'as dit, il aurait pu partir, ils auraient pu changer de décision. Et ce sera bien lui l'entraîneur. Maintenant, il va falloir chercher un coordinateur offensif, comme tu l'as dit, voire un coordinateur défensif aussi, peut-être, parce que c'est un coach défensif, Gerard Mayo, mais il pourra peut-être vouloir un DC, comme on dit. Donc, on verra ça. Il y a quelques reproches, notamment frère Castro dans le chat, qui dit les Pats changent sans rien changer. C'est un reproche aussi qui est fait au niveau de cette méthode patriote, c'est qu'ils font du neuf un petit peu avec du vieux, puisque Gerard Mayo, c'est le disciple de Bill Belichick.
Oui et non, on verra. Je comprends, mais c'est pas parce que tu prends un mec de l'intérieur que les choses ne changent pas. Parfois, les mecs joue-jeu attendent et imposent leur patte derrière. C'est quand même la nouvelle génération. Je pense qu'il a toute la possibilité de changer beaucoup de choses. C'est vrai que l'arbre Belichick est une catastrophe, parce que le seul ancien Patriots qui a réussi en tant que coach, c'est Mike Vrabel, mais c'est même pas l'arbre Belichick. C'est même pas là-bas qu'il a appris à coacher. Donc l'arbre Belichick, globalement, bah, y a que des erreurs. Là où l'arbre Andy Reid ou Shanahan, il y a quasiment que des réussites. Mais malgré tout, je pense que Mayo, bah, il a la possibilité d'imposer sa patte. On verra, pas sûr que rien ne change. C'est sûr que s'il reconduit Bill O'Brien en coach offensif, oui, on va faire la gueule, quoi. Là, c'est clair. Mais attendons de voir. Je trouve que c'est un peu dommage de caricaturer en disant « t'étais déjà dans le building, donc tu vas faire comme Belichick ». Attendons de voir ce qu'il fait.
Ou s'il prend Josh McDaniel, coordinateur offensif. L'arbre Bill Belichick qui a fourni pour l'instant le coach de l'année en titre. Hein. Il faut le dire quand même, Brian Daboll, qui est coach de l'année en titre, puisqu'il était coach de l'année l'an dernier. Hein. Je vois ton pouce, mais il est coach de l'année dernière.
Bon, d'accord.
Voilà, c'était pour
combien de victoires en play-off, combien de titres, combien
pour
de
la
machin.
C'était
pour
non,
la mais je veux dire, si tu compares les arbres Red et Belichick, bon, tu fais la gueule, quoi.
Écoute, on va en tout cas terminer sur les Patriots rapidement pour dire qu'ils sont aussi à la recherche d'un general manager parce que Bill Belichick, il a assumé les deux postes. Et là, ça va être aussi un vrai choix important parce que les Patriots vont avoir un choix haut dans la draft. Il faut construire, voire reconstruire quasiment tout cet effectif. Là, par contre, il faut vraiment se creuser les méninges du côté de Robert Kraft parce qu'il faut un general manager. Et on le sait, il le faut rapidement. D'habitude, on choisit souvent le general manager avant le coach. Là, c'est l'inverse. Ça a été fait comme ça, mais il va falloir trouver quelqu'un.
Alors, c'est la seule conséquence un peu bizarre de cette embauche express. On a dit tout le bien que ça pouvait apporter. C'est un truc un peu bizarre, parce qu'en général, tu embauches le GM, qui choisit le coach. Là, c'est vrai que le GM n'aura pas le choix du coach. Bon, c'est pas tellement grave. Je pense que globalement, au niveau de general manager, je veux dire, ils veulent peut-être faire revenir Nick Caserio de Houston, mais pas sûr qu'il ait envie de bouger.
Je crois qu'il a déjà annoncé Nick Caserio qu'il allait rester à Houston. Et quand on voit comment ça marche bien à Houston, et en effet le travail qu'il fait, je comprends.
Ouais, t'as pas envie de bouger. Ouais.
Voilà, je comprends que les Patriots voulaient le ramener, mais je comprends lui aussi qu'il veuille rester. En tout cas, dans le chat, il y a plusieurs personnes qui disent que la nomination de Jerod Mayo est plutôt une bonne chose. C'est Arlapinou qui dit que c'est un coach proche de ses joueurs, Mayo. Il fait l'unanimité. Écoute, on verra ça en effet. Mais voilà, en tout cas, les Patriots, eux, ont déjà leur nouvel entraîneur. Ce n'est pas le cas pour l'instant des Seahawks, parce que c'était aussi l'autre entraîneur un petit peu historique qui est parti en NFL uniquement, puisque tu as annoncé Nick Saban, qui est le troisième entraîneur historique, mais lui, c'est plutôt du côté du college football. Pete Carroll, lui, n'est plus l'entraîneur des Seahawks après 12 ans. 12 ans à la tête de Seattle. Et là, on a l'impression qu'ils sont partis un petit peu aussi fâchés, on a envie de dire. On voit les déclarations sur le site ici de Pete Carroll qui estime qu'il a été licencié ou en tout cas, on lui a montré la sortie. Ce sont des gens qui ne connaissent pas vraiment le football qui lui ont montré la sortie. On a l'impression que, en tout cas, publiquement, ça ne s'est pas passé aussi bien qu'à New England.
Après, moi, j'ai vu l'interview. Et à l'oral, elle paraît moins violente qu'à l'écrit, honnêtement. Il explique juste qu'en fait, les franchises NFL sont des entreprises gérées par des gens qui gèrent très bien les entreprises. Mais quand on arrive au moment de parler de football, ce sont des gens qui sont parfois un peu dépassés et c'est difficile d'avoir une discussion tactique avec eux. Mais j'avais pas trouvé que ça soit... Enfin, il disait que c'est frustrant pour un coach, c'est vrai, mais dans le ton, c'était pas ultra violent. À l'écrit, lu comme ça, ça paraît beaucoup plus violent, alors que je trouvais que bon, voilà. Mais en tout cas, le fait est que la conférence de presse, en tout cas, s'est bien passée, ça a été très émouvant, à l'image de Pete Carroll, qui est quand même un être humain qui a l'air d'être un être humain assez respectable. Il a remercié tout le monde, grande classe, très émouvant lorsqu'il a parlé des sacrifices de sa famille, etc. Et là encore, hein, c'est une page qui se tourne. Seattle, c'est le premier titre de leur histoire avec lui. C'est une des défenses, peut-être la défense la plus charismatique des années 2010. C'est un deuxième Super Bowl perdu, certes, mais qui restera dans la légende, hein, parce qu'on s'en souvient tous. Donc oui, c'est quelque chose qui va être très compliqué à succéder aussi.
Oui, dans le chat, on me fait remarquer 14 ans. J'ai peut-être dit 12 saisons. C'est bien 14 saisons. En effet, 14 saisons, et tu l'as dit, 2 Super Bowls, 1 gagné et 1 perdu, mais vraiment, disons qu'un Super Bowl marquant face aux Patriots, justement. Et on a une question de DJ Starkiller93 qui dit « Pete, il a été évincé, mais on lui reproche quoi ? Il est gagnant avec son effectif, à part le choix d'un meilleur QB. On ne peut rien lui dire. » Et c'est vrai que pour Belichick, on sentait véritablement une fin de cycle. Est-ce que c'était une fin de cycle à Seattle ? Parce qu'on se rappelle, ça fait 2 saisons qui performent tout de même avec Geno Smith, même s'il n'atteint pas les playoffs cette saison. Il y avait quand même, ça performait un peu mieux qu'en tout cas que du côté de New England.
Bah, je pense que le principal reproche, c'est la défense qui est hors du top 20 depuis 2 saisons, alors qu'il est censé être un coach défensif. J'imagine que ça a joué. Mais je suis assez d'accord avec ça globalement. Moi, en fait, quand j'ai vu son départ, faut se rappeler que c'est le coach le plus vieux de la NFL. plus vieux que Bedicic, etc. Alors, il fait 50 ans, donc ça ne se voit pas. Je vous souhaite tous d'être conservés comme lui à son âge.
Ouais, honnêtement. Il a un an de plus que Bill Belichick. Il a 72 ans, Bill Belichick en a 71. C'est vrai que c'est impressionnant.
C'est impressionnant. Mais moi, quand j'ai vu l'annonce de son départ, je me suis dit, bon, bah, à son âge, peut-être que sa femme lui a dit, j'en ai marre, on va profiter de notre retraite, ou peut-être que machin. Enfin, tu vois, il peut y avoir plein de choses. Et en fait, on a rapidement su que c'était complètement du côté des Seahawks. Et là, c'est vrai que bon, je me dis, je veux bien, là encore, la nouveauté, tout ce que tu veux, machin. Mais surtout, vu le nom qui semble être favori, ça fait pas trop nouvelle vague renouvellement. Je sais pas si tu veux en parler maintenant ou
on en parlera peut-être plus tard. On va en parler peut-être plus tard, mais c'est vrai que ça fait un peu du jeune, encore une fois, avec du vieux. Mais voilà, on vous tease un petit peu sur le thème de tout à l'heure. Mais on va terminer cette page sur les entraîneurs. Victor, tu l'as dit, Bill Belichick, c'est 71 ans. Pete Carroll, c'est 72 ans. Et dans cette interview, Pete Carroll, il dit, lui, qu'il est ouvert, à tout, qu'il voulait rester. On l'a bien compris. Est-ce que ces deux entraîneurs, on va les voir en NFL l'année prochaine? Est-ce qu'ils vont être, selon toi, à la tête d'une franchise pour cette saison 2024?
Moi, je pense qu'ils ne devraient pas. Mais si un des deux est à la tête d'une franchise, je pense qu'il y a plus de chances que ça soit Belichick.
Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi parce que pour moi, je vois mal une franchise se dire d'aller prendre ces coachs-là, alors qu'en effet, la vague désormais en NFL, c'est d'aller prendre de jeunes entraîneurs qui ont des nouvelles idées, parfois offensives, d'aller prendre des entraîneurs qui ont fait leur temps, entre guillemets. C'est vrai que ça pourrait être, même à l'image du public, pas forcément une bonne décision. Mais on sait qu'il y a des franchises et il y a des rumeurs qui sortent, comme quoi les franchises sont très attirées par le fait d'avoir Bill Belichick à leur tête. Donc pourquoi pas? En tout cas, j'avais une autre question à te poser. Pete Carroll qui dit qu'il est ouvert à tout. Est-ce que ça veut dire éventuellement reprendre un poste de coordinateur ou pas? Parce qu'un coach comme ça, difficile de le revoir passer coordinateur désormais.
Non, pour moi, il sera soit spécial advisor, enfin conseiller spécial, soit coach. Par contre, Pete Carroll, il ne faut pas oublier qu'il est champion national en college football. Hein.
C'était ma question suivante.
Donc son spectre, il est large. Il y a la NFL, mais il y a le college football. Tu peux très bien imaginer qu'il aille coacher. Alors, ce qui serait une bombe, c'est qu'il aille coacher Washington, qui vient de perdre, finaliste cette année, qui vient de perdre son coach qui est parti à Alabama. Je suis en train de regarder, il est né à San Francisco. Donc, l'université de Washington, l'État, donc Seattle, hein, pas Washington DC.
Il connaît un peu la région en plus.
C'est pas très loin de la Californie, tu vois, bon.
Il a été à Seattle pendant longtemps, donc il bougerait pas beaucoup.
C'est ça, c'est-à-dire que après je connais pas sa vie de famille, mais si ses enfants sont restés dans le coin ou autre ou machin, ça lui permet de pas partir. Là, ça serait vraiment un truc énorme. Mais voilà, je pense que tout est ouvert pour lui.
En tout cas, il y a Chiki Master qui dit Belichick par nostalgie. Je suis sûr qu'une franchise va se laisser tenter. Voilà. En tout cas. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. À mon avis, si on revoit l'un des deux en NFL en tant que head coach, ce serait Bill Belichick. Et peut-être qu'on pourrait voir Pete Carroll au niveau du college football. Lui qui, en effet, avant d'arriver à Seattle, il était à USC entre 2001 et 2009. Voilà. En tout cas, le spectre, comme tu l'as dit, est large pour ces deux hommes qui ont été remerciés dans la semaine, ce qui a fait deux grosses nouvelles pour deux coachs historiques parmi les coachs qui étaient restés le plus longtemps dans les franchises. Et on a Tejan Actu, je suppose que c'est Camille qui nous dit sur le chat, les enfants de Pete Carroll, ils ont 40 ans. C'est vrai que peut-être que...
Petits-enfants dans ce cas-là, ça va.
Peut-être que les petits-enfants. Non, mais c'était drôle, c'est vrai que ce sont des entraîneurs qui ont un certain âge, on l'a dit. Voilà, en tout cas, c'était les deux infos sur lesquelles on voulait revenir.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.